Engels pour l'inauguration de l'exposition Vieillissement consacrée aux travaux de Big. Big, c'est le nom de l'agence, B comme Bjark, I comme Engels, G comme groupe, Boop. Cette agence basée à Copenhague fédère environ 80 architectes, designers, constructeurs et chercheurs venant du monde entier. La moyenne d'âge tourne autour de la trentaine. Bjark Engels a fondé Big en 2005. Ses premiers travaux ont été réalisés en association avec Julien De Smet, architecte belge, au sein de l'agence Plot, créée en 2001. Ils s'étaient rencontrés en travaillant à OMA, Office for Metropolitan Architecture à Rotterdam. Big compte en effet parmi les Colas Kids qui essaiment à travers le monde avec des idées, des projets, des réalisations innovantes, décoiffantes et non moins pertinentes. Pour Big, l'enjeu de l'architecture est de s'enraciner dans les transformations physiques de la société. Bjark Engels est un créateur incroyablement prolifique. Il a longtemps hésité entre le dessin de comics et l'architecture et on comprend pourquoi. Il choisit de communiquer le projet d'architecture sous la forme d'une BD. L'exposition met en scène cette BD qui rencontre les projets présentés en regard sous forme de maquette qui nous plonge dans un univers inouï. Yesisement est le titre du livre de Big, c'est le titre de l'exposition. Yesisement est un jeu de mots qui résonne avec le lessisement de Mies van der Rohe et aussi le Yes We Can de Barack Obama. Yesisement, c'est le oui aux contraintes et aux contradictions de la commande. C'est la volonté farouche de prendre le risque d'une réponse sans concession à la réalité sociale et politique de notre époque. C'est l'idée du big, ainsi que le dit Bjark Engels, au sens de l'élargissement de l'esprit, qui est aussi la signification du nom de l'agence. Et pour Arc en rêve, je dirais qu'avec Big, Yesisement, c'est toujours oui à plus de plaisir d'architecture. Donc Bjark Engels va donner sa conférence. Je vous explique le déroulement de la soirée. Il y aura ensuite, au moment de l'ouverture de l'exposition, la dédicace du livre qui est en vente à l'entrée de la galerie au prix de 19,99 €. Ça, c'est dit à chaîne. Ils sont bons en marketing. Non, mais je précise le prix parce qu'en fait, on a envoyé un mail en disant qu'il valait 15 € et c'est une erreur. Voilà. Donc, vous pourrez acheter le livre et le faire dédicacer par Bjark. Ceux qui sont dans la salle de conférence ont accès à la traduction simultanée dans les accoudoirs de vos fauteuils. Voilà, sur la partie verticale. Vous les trouvez ? La partie verticale de l'accoudoir, pardon. Je ne sais pas si on a testé pour savoir quel numéro, mais enfin c'est le système assez facile. Hein, et je voudrais dire qu'au public, je voudrais dire au public qui est installé sur les mezzanines qu'ils bénéficieront bien sûr de la traduction en français directement. C'est le son qui est envoyé sur les mezzanines, voilà, de telle manière que voilà, au maximum de personnes puissent profiter de cette soirée. Et après l'ouverture de l'exposition qui aura lieu en fonction de la durée de la conférence entre 20h et 20h30, la soirée se prolonge et l'accès à la soirée qui prolonge donc l'inauguration était conditionné à des réservations et à des passes. Voilà, donc ceux qui voulaient rester, j'espère que vous avez vos passes. Il n'y a plus. Enfin, ça va durer un certain temps dans la nuit, voilà. Donc, certains pourront arriver plus tard, certains partir plus tôt. Voilà, donc ce soir, en fait, Big, à vous. Bien.
Merci. Bonsoir.
Je voudrais dire merci à Francine et à Michel Jacques pour avoir rendu possible. Tout ceci, c'est une très grande honneur pour moi de montrer notre travail ici à Arc-en-Rêve. Et j'étais ici pour la première fois, il y a 12 ans, pour l'ouverture de l'exposition Living and Reading avec Cool House, qui montrait des projets sur le Living et Bruce Mao qui montrait du petit, du moyen et du grand et du extra grand et un travail sur la communication des idées. Et par rapport à l'exposition en bas, nous avons fait une collaboration avec Bruce Mao en 2004 sur 7 nouveaux Danemark et on a Bruce Mao dans nos bureaux et il a dit il était de plus en plus excité par nos idées et il disait il est très intéressant que lorsqu'on voit de l'architecture en images ou dans des publications, cela a toujours l'air d'être des images mortes et des dessins qui sont rigides, mais lorsque vous rendez visite à l'architecte, eh bien ça prend vie et vous apprenez les anecdotes, les incidents qui ont eu lieu avec l'élaboration du travail et tout devient très excitant. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas faire ça dans un livre ou dans une exposition. Donc lorsqu'on nous a invités à faire cette exposition, nous avons pensé qu'il serait intéressant de voir si on pouvait relever le défi de Bruce Mao et faire une exposition qui serait comme une visite chez un architecte dans son bureau et pour aller derrière, dans le back-office, pour voir quels sont les différents événements qui font la forme de nos bâtiments et nos autres projets. Donc on s'est demandé, est-ce qu'on pouvait raconter des histoires avec l'architecture? Et on a trouvé en fait qu'il ne fallait pas inventer un nouveau format. Le format existait déjà en forme de BD, puisque dans les BD, ils utilisent des images, des dessins, des carrés de texte, des bulles, pour raconter des histoires. Donc on copie le format de la BD américaine. On a raconté les histoires derrière 30 de nos projets, avec les demandes, les conflits, les compromis qui donnent forme à nos villes et à nos bâtiments. Nous avons intitulé l'exposition Yes is More. En fait, c'est une évolution de certaines idées de nos héros. Bien sûr, c'est lié à Ivan Koos et son slogan Less is More. C'est une idée qui a déclenché la révolution moderniste et a libéré l'architecture des confins du style ou de l'histoire. Mais très vite, ça a dégénéré dans une esthétique minimaliste. Et il y a eu une contre-évolution avec Robert Ventura qui a dit « Less is a bore », moins c'est ennuyeux. Pourquoi est-ce que tous les bâtiments modernes sont si ennuyeux? Et ensuite Philip Johnson est arrivé et a dit « I'm a whore », donc « je suis pute ». Et ça libère le potentiel de la promiscuité, l'ouverture à de nouvelles idées. Et il y a 3 mois, j'ai eu l'honneur de visiter son lotissement de maisons en verre à New Canaan et lorsqu'il est mort il y a 3 ans, il a laissé 14 bâtiments différents et ces 14 bâtiments ont l'air d'avoir été dessinés par 14 architectes très très différents. Mais en fait, c'est lui qui avait tout fait. Et on a inclus également Barack Obama qui dit « Yes, we can », c'est-à-dire qu'il a libéré l'optimisme pendant une période de crise financière. Mais ce qui est encore plus intéressant peut-être, c'est qu'il était candidat démocrate contre les républicains à un moment où ils étaient très peu populaires. Et il aurait été très tentant, très facile de faire la politique traditionnelle de l'opposition, c'est-à-dire dire le contraire de ce que dit ceux qui ont le pouvoir. Mais au lieu de faire cela, il a dit il n'y a pas d'État rouge, il n'y a pas d'État bleu, il y a les États-Unis d'Amérique. Et c'est un compromis, c'est un message d'unité. Et c'est ça qu'on essaie d'illustrer avec notre slogan « Yes is more ». C'est un départ du cliché de l'architecte rebelle qui réagit contre la société, qui dit qu'être radical est défini par ce qu'on oppose. Et c'est une façon de faire qui est différente parce que on dit yes, on dit oui à toutes les questions différentes, les demandes des voisins, de budget, des agendas politiques, les besoins des utilisateurs. Donc on fait de ça la force motrice de notre projet parce qu'on ne doit pas évoluer contre quelque chose, on doit évoluer avec l'input de la société. En fait, je pense que Charles Darwin, c'est l'une des personnes qui a le mieux décrit notre processus de conception dans le bureau, avec son arbre de l'évolution dans l'origine de l'espèce. Ça pourrait très bien représenter le processus de la conception. Parce que toute forme de vie est née dans un processus de sélection. Et donc, à travers les générations de réunions, à chaque réunion, il y a beaucoup trop d'idées. Et il n'y en a que certaines qui survivent. Donc, dans une réunion, on choisit un modèle qui est peut-être très, très beau et un autre qui est très pratique. Ensuite, il y a une progéniture qui peut être avortée peut-être, et petit à petit une idée évolue. Voici un exemple, c'est un projet qu'on a fait pour un hôtel et une bibliothèque à Copenhague. C'est un projet très grand sur un site très petit. Et le processus de conception était en fait une bataille pour la survie avec cette idée. Cette idée est sortie, c'est une tour qui fond avec les alentours et on a la partie publique dans la base du bâtiment et c'est comme les marches danoises comme à Rome avec une partie publique à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce projet était un partenariat public et privé et donc Centerplan et la ville de Copenhague et on a eu la chance de gagner mais malheureusement Centerplan a été financé par la seule banque danoise à faire faillite pendant la crise financière. Donc maintenant c'est une banque d'investissement danoise qui va prendre la suite et en fait on va probablement faire le projet mais sans la tour. En fait Darwin il explique comment les choses se passent mais des fois il y a une idée qui ne marche pas bien pour ce client dans ce contexte, mais dans un autre pays, avec un autre programme, ça peut être la bonne réponse à une question totalement différente. Donc on ne jette jamais rien. On garde toutes nos maquettes. C'est une archive de la biodiversité architecturale, puisqu'on ne sait jamais quand est-ce qu'une maquette va être la bonne réponse à une question qui n'a pas encore été posée. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous raconter certaines des histoires dans l'exposition et vous montrer comment les idées évoluent et comment l'ADN des idées est passé de génération en génération. Je vais commencer en Chine et en fait à Taipei. Voici cette idée de la générosité urbaine qui fait qu'un projet public, un projet privé peut être un geste de générosité envers le secteur public. Et là, ici, on a un projet dans le centre-ville de Taipei, dans ce marché avec plein de magasins pour les caméscopes, les téléphones, etc. Il y a beaucoup de petits magasins et le programme était presque urbain. Il y a des marchés, il y a des galeries, il y a de grands magasins, il y a des salles de conférence, un auditorium, des bureaux, un hôtel. Et on s'est dit pourquoi pas faire un centre piéton qui serait encore plus grand avec des chemins différents, avec différentes adresses, et les programmes seraient consolidés dans un tas avec un mur de pièces. Donc, on a combiné le rationnel et c'est comme une sculpture de Amish Kapoor. Et si on regarde les différents plans, vous voyez qu'il y en a qui sont très très pragmatiques, où la façade rentre à l'intérieur et permet à l'espace public d'envahir l'intérieur, et le toit serait une sorte d'arène informel. Donc, le bâtiment est composé de ces tas de couches en béton qui bloquent le soleil en été, mais qui laissent passer le soleil d'hiver. Et on peut utiliser tout cela pour chauffer et refroidir le bâtiment. Et c'est donc un refroidissement par évaporation. Et on peut faire baisser la température de 2 à 4 degrés sur le toit. Et cela descend naturellement dans le bâtiment et crée une brise naturelle plutôt que la climatisation artificielle qu'on a d'habitude dans les magasins. Donc, on dirait un bloc de béton, mais vu du côté, il y a une transparence, et on dirait du verre, et la façade invite les gens à envahir l'espace et se croiser à l'intérieur. C'est un peu comme la tour de Copenhague, mais à l'envers. Donc à l'intérieur, vous avez la lumière du jour qui est omniprésente, mais c'est toujours filtré, et le toit est une sorte d'arène urbaine. On s'est dit finalement, puisque le bâtiment parle beaucoup de médias, peut-être que les médias pourraient être transmis à la façade. Donc on a invité un groupe d'artistes et d'architectes de Berlin, et ils ont inventé un système où on a une illumination du dessous des Louvres. Mais plutôt que de gaspiller l'énergie, un tiers de l'énergie est utile et un tiers est en fait un irritant. Et ils ont fait une microtexture et une inclinaison qui concentre toute la lumière irritante vers l'extérieur. Et puisque il ne s'agit pas uniquement d'un mur de médias, c'est un hybride entre la façade et l'espace urbain. Et lorsque la façade rentre sur elle-même, eh bien, l'information fait la même chose. Et il y a un trop-plein d'informations qui rentrent dans l'espace public et qui aspirent les gens vers l'intérieur du bâtiment. C'était un concours sur invitation et on a eu la chance de gagner. Et avec un peu de chance, dans 3 ou 4 ans, vous pourriez voir ce bâtiment à Taipei. J'ai besoin d'un peu de son. Thank you. Donc, de beaucoup de points de vue, certaines des idées qui sont mortes avec la crise financière à Copenhague, dans un format inversé, s'est fait une nouvelle vie à Taipei. Mais est-ce que vous pouvez laisser le son aussi élevé, s'il vous plaît? Et une autre série d'idées a commencé avec une poignée de projets à Copenhague, avec les maisons VM, ce bloc qui a été manipulé pour que les appartements ont vue sur le paysage plutôt que les uns sur les autres. Et la façade sud a une apparence caractéristique et ce paysage avec les balcons triangulaires. Et Kahupna les a appelés les balcons DiCaprio parce que ça fait un peu comme dans Titanic. Mais ils ont transformé la façade sud dans un espace social où si vous étiez au 10e étage, ce serait peut-être un peu solitaire, mais sur un jour de soleil, vous pourriez rencontrer peut-être toutes les jeunes filles sur les autres balcons. Donc comme ça, on peut agrandir l'air de la vie publique. On allait avoir donc un mur de 80 mètres carrés en aluminium et on s'est dit non, ce serait trop déprimant de rentrer, de trouver du métal. Il faudrait trouver quelque chose de l'art avec des couleurs, du céramique et on l'a proposé à notre architecte. Mais il a dit, bien écoutez, moi je suis pas artiste. Et ensuite, j'ai dîné à un hôtel au 20e étage à Copenhague et il y avait un tableau. Et j'ai demandé, mais c'est quoi ça? Et il a dit, c'est Alberto Co, qui était donc le propriétaire du bâtiment lorsque le restaurant a été construit. Donc, c'est un moderniste qui devient presque l'homme de la Renaissance, qui dessine son portrait et puis le fait accrocher dans un restaurant qui a pris son nom. C'est donc une tradition danoise moderne. Et puisque moi je ne suis pas peintre et puisque notre toile était tellement plus grande, on a acheté du carrelage pour salle de bain et on en a fait un mosaïque. Et là vous allez reconnaître notre client, notre beau client, Pierre Huffner. Et tout d'un coup, on avait de l'argent dans le budget pour des œuvres d'art. Et donc, on a fait une forme d'art. C'est donc l'entrée de la crèche de l'Art House. Et un jour, j'y étais et il y avait un petit garçon qui a demandé à sa maman, c'est qui? Et la maman a dit, c'est Elvis. Donc, cela... On a créé une sorte d'esprit de l'endroit. Les bâtiments VM ont gagné un prix et on a gagné donc une plaque en laiton et on l'a donc insérée et on en a fait une dent en or. Donc, les maisons VM ont eu un prix, et c'est un très grand prix, c'est-à-dire que lorsqu'on joue au Monopoly au Danemark, on peut acheter une maison VM. C'est le moins cher possible, mais ça existe. Donc, c'est un très grand honneur. Et ensuite, on a été contacté par un hôtelier de Stockholm qui voulait faire un hôtel d'aéroport à Stockholm. Et lorsque vous atterrissez à Stockholm, là où il y a les bagages, et bien au lieu d'avoir des publicités, vous avez des photos de gens qui habitent Stockholm. Et les deux dernières personnes sont le roi et la reine qui disent bienvenue à Stockholm. Et ça marche. On se sent le bienvenu. Et c'est une typologie un peu bizarre, les hôtels d'aéroport. Ils sont toujours au milieu de nulle part. Donc on a essayé de faire une nouvelle typologie et à la fin, on est tombé amoureux de ceci. On a appelé ça le marteau. Et vous avez d'abord le parking et ensuite vous allez dormir dans une tour. On va dire que vous arrivez sur une rampe et vous avez une vue de 360 degrés dans le centre de conférence. Et lorsque vous avez terminé, vous prenez l'ascenseur pour descendre vers votre chambre pour dormir. Et on était convaincus par cette idée. Donc, on a passé tout notre temps et tout notre budget à le faire. Et notre client l'a détesté. Il pensait que ça ressemblait à quelque chose qui aurait été dessiné par Darth Vader. Il a dit non. Il a dit qu'il faut pour tout le monde. Je veux une conférence, un espace de conférence en bas et une tour. Et on s'est dit, eh bien, il a déjà dessiné le bâtiment. Pourquoi il a fait appel à nous? Qu'est-ce qui reste aux architectes? On peut faire des façades, d'accord. Faisons quelque chose, des façades qui seraient très très belles. Donc, on a imaginé que chaque chambre aurait une très belle fenêtre, parfois étroite, mais ça ressemblerait à peu près à cela. Et puisqu'on avait une façade en béton, les fenêtres ont l'air foncées. Donc, lorsque les fenêtres sont petites, c'est plus clair. Et lorsque les fenêtres sont grandes, c'est très foncé. Et cela, ça vous fait une image de la princesse Victoria, dans ce cas-là, de très loin. C'est un bâtiment en triangle. Donc, vous avez Madeleine, Carl-Philippe et Victoria, mais vous devez être à des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir le voir. Et notre réflexion, c'était qu'est-ce qui pourrait être plus beau comme façade que la princesse Madeleine. Donc, au bon vieux temps, lorsqu'il y avait deux rues importantes qui se croisaient, vous mettiez une place et avec une statue du roi. Donc là, vous avez trois autoroutes qui se croisent et lorsque vous quittez l'aéroport pour aller vers Stockholm, vous allez voir Victoria. Mais lorsque vous quittez Stockholm pour quitter la ville, vous allez voir Madeleine parce que là, les gens vont peut-être retourner dans notre belle ville. Et d'un autre côté, vous allez voir Carl-Philippe. Et on a été très surpris de constater que le client l'a aimé et la ville l'a aimé et le client l'a montré au roi et lui l'a aimé, mais sa première commentaire a été de dire « Je suis où, moi ?» Donc, on a fait les plans, on a eu les permis de construire et ensuite, on a vu que le choix des couleurs à l'intérieur aurait un effet sur l'effet extérieur et on a soumis les plans pour avoir le permis de construire et il est assez surréaliste de soumettre des élévations qui ressemblent à cela avec les trois visages de la famille royale danoise. Et c'est l'hôtel le plus pragmatique de toute l'histoire des hôtels. C'est très très efficace, très très efficient. Mais le moment où les cheveux de Carl-Philippe rencontrent le dos de sa fille, eh bien, ça devient une architecture très, très expressive. C'est comme si Karl Hofner, son visage, le tableau de son visage, s'est explosé pour devenir ce bâtiment. Donc, pour revenir au centre-ville, on nous a demandé de faire des appartements à côté d'un parking. Notre client allait faire les deux bâtiments et ensuite il allait vendre les places de parking à une autre entreprise. Mais nous, on s'est dit, pourquoi pas combiner les deux? Et tous les appartements pourraient devenir des lofts sur un podium de voiture. Copenhague est une ville très très plate. Donc si vous voulez avoir une pente avec une vue, il faut le créer. Donc on a créé cette pente et on a arrangé les volumes pour pas être sur le terrain des voisins. Et dans le sud, sur la façade sud, il y aurait les appartements, mais transformés dans presque des villes de lotissement en banlieue, où les appartements auraient des jardins de la même taille que l'appartement. Donc ce sont comme des villas qui sont sur un lit de voiture. Voilà, donc il y a un ascenseur en diagonale, ça vient de Suisse, ils en ont beaucoup besoin en Suisse, bien sûr, mais pas au Danemark. Et ça fait une sorte de cathédrale de la culture des voitures. Normalement, c'est un espace qui est gaspillé et où les femmes en particulier peuvent avoir peur, surtout la nuit. De l'extérieur, on voulait faire en sorte que le parking soit aéré naturellement. Il fallait que ce soit donc perforé. Et on a vu que pour 5% de plus, on pouvait avoir des petits trous avec 5 tailles différentes. Et ça pouvait également faire des images rasterisées. Et on a donc, puisqu'on a appelé ce projet la montagne, on a voulu avoir une image de Everest et ça crée l'illusion d'une photo et toute la façade nord devient une œuvre d'art de très grande taille. Et lorsque vous rentrez dans la montagne, ce sont des galeries très colorées, c'est comme un univers en parallèle. Au sud, c'est un oasis urbain avec du parquet, et le parquet passe à l'extérieur et devient une terrasse, et toute l'eau pluviale est accumulée dans un réservoir, et pendant des périodes de sécheresse, on peut arroser et toute la montagne sera couverte de verre et ressemblera à un temple cambodgien. Là, c'est notre premier exemple de l'alchimie architecturale, l'idée qu'on peut créer peut-être pas de l'or, mais une valeur ajoutée en mixant des ingrédients traditionnels. Et au-delà de créer des terrasses pour les maisons, nous avons remarqué que le parking devenait une sorte d'espace public attrayant. Et il y a un an et demi, on a été contacté par quelqu'un qui faisait des documentaires qui nous a montré ce clip qu'il a créé à la montagne. Donc, ça c'était les premières images de ce qui allait devenir le documentaire My Playground, donc ma cour de récré, qui montre l'impact de l'activité humaine sur l'espace public, donc avec ces traceurs. Donc ce qu'ils font, ça s'appelle du parcours. C'est une contribution française à la culture du 21e siècle. Et comme des traceurs, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils agrandissent l'espace public au-delà des confins de ce qui lui avait été attribué. Et la ville est dominée par des développements privés où les fonctions sont préméditées. Et en exerçant leur corps, ils arrivent à aller là où d'autres ne vont pas. Ils peuvent conquérir des territoires qui sont en dehors des royaumes des autres. Et en combinant les appartements et le parking à la montagne, eh bien, le parking était devenu plus intéressant comme lieu de mouvement. Et on s'est dit qu'on pouvait aller encore plus loin. Et lorsqu'on nous a invités à faire un projet pour le même développeur que VM et la montagne, dans Eight House, dans une nouvelle partie de la ville à Copenhague, c'est très dense, très urbain, avec des grands bâtiments, des bars. Et on nous a demandé de faire un grand bâtiment qui ferait 200 mètres de longueur et 100 mètres de largeur. Et la question, c'est comment faire un projet aussi grand sans faire quelque chose d'anonyme et de monolithique. Eh bien, ce qu'on ferait, c'est faire des appartements qui se ressemblent, mais avec des façades très différentes. Et on n'est pas tellement intéressé par ce genre de diversité cosmétique. Nous, on voulait générer une diversité réelle. Il y avait 12 000 mètres carrés d'appartements et de magasins. Donc, les magasins veulent être près des clients, donc on les mettait en bas. Les appartements doivent être plus élevés, mais il pourrait y avoir d'autres espaces où on pourrait mettre une petite rue, des jardins devant des appartements avec une vie sociale à l'avant. Et ensuite, on fait une couche d'appartements plus classiques et ensuite une couche de loft avec des jardins et des jardins sur le toit. Donc, c'est comme un gâteau avec différentes couches. Et le master plan disait qu'il devait y avoir un chemin pour les piétons. Donc on en a fait un 8. Et les magasins et les bureaux aiment bien avoir la lumière du jour, mais ils ne veulent pas avoir du soleil. Donc on les a mis plus en bas. Et on fait la même chose dans le coin du sud-ouest. Et on a ouvert une cour pour avoir une vue et pour avoir la lumière du jour. Donc cette distorsion du bloc fait un court-circuit. Et le chemin public, maintenant je suis en concurrence avec moi-même, et le chemin public, mais mettez le son et laissez le son s'il vous plaît. Donc, pour prouver qu'on avait raison, on a fait un traceur virtuel qui montrait comment le royaume public a poussé ses limites et est venu jusqu'au bureau et aux appartements. Et dans la vraie vie, ça serait vraiment très très dangereux. Donc, plutôt que d'être un objet d'architecture, la maison, oui, c'est une condition urbaine où il y a différentes formes d'espace public, de rencontres sociales à différents niveaux. Donc ça c'était la maquette pour la 8 House et on a réussi à commencer la construction avant le début de la crise, mais malheureusement les voisins ont commencé à aménager mais ils vont avoir une vue superbe parce qu'il n'y a pas de bâtiment avoisinant pour le moment. Mais en janvier, pour la première fois, on a pu faire une balade et comme vous pouvez le constater, l'espace public et informel pour la vie de la rue s'agrandit et va vers les cours des bâtiments et va vers les façades extérieures. Et il y a une sorte d'expansion de des rencontres sociales spontanées. Et c'est comme un hybride d'un village méditerranéen et un bloc de Copenhague traditionnel. Et la maison 8 va être complétée au mois d'août, donc cet été. Le client n'avait pas encore vendu les appartements. Ils ont commencé les ventes la semaine dernière, mais en 2 semaines, ils ont réussi à vendre 33 appartements. Donc, au niveau de la construction, ils sont assez heureux pour le moment. Et dernier chapitre, donc, sur cette idée de l'évolution de l'idée et l'hybride de l'espace public et le paysage et l'architecture. C'est lorsqu'un ministre de l'Azerbaïdjan est venu à Copenhague et a vu la montagne et la maison 8 et a été très attiré par cette idée qu'on pouvait créer des montagnes à partir de l'architecture. Et il nous a parlé de Baku et l'île de Zira. Et ça n'a jamais été ouvert au développement parce que tout le monde a peur qu'un mur de bar va gâcher la vue qu'on a depuis la ville moyenâgeuse. Et il voulait faire la silhouette des 7 pics les plus importants, les 7 sommets les plus importants d'Azerbaïdjan. Et il a suggéré qu'on pouvait peut-être faire un plan pour un développement de 1 million de mètres carrés. C'est un peu, ça relève de la mégalomanie quelque part. Donc, on a fait un petit film qui explique les principales idées. En fait, Baku est arrivé en croissant et il y a l'île de Zira au milieu. C'est un peu comme le drapeau de l'Azerbaïdjan, en fait. Et notre but, c'était de sampler la topographie des 7 sommets les plus importants et les traduire dans des structures pragmatiques pour la vie humaine. Et l'île est un désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de nature, il n'y a pas d'énergie. Et on a décidé de considérer que c'était un très grand écosystème où on allait utiliser toutes les ressources naturelles, le vent pour avoir une usine de désalination pour l'utilisation de la population. On allait utiliser le soleil pour chauffer l'eau, et puisqu'il n'y a pas d'assainissement, plutôt que de faire toute une infrastructure, on pourrait faire des jardins où tous les excès de la consommation humaine pourraient être filtrés et pourraient faire de cette île déserte un paysage très vert. normalement, c'est donc normalement, c'est ça coûte à la nature d'avoir un développement urbain. Ici, ce serait le contraire. Et ce serait plutôt un écosystème. Et les bâtiments pourraient créer des abris du vent pour accumuler la chaleur du soleil et collecter les eaux pluviales dans des criques et dans des lacs. Donc après 6 mois de planification, on l'a présenté au président et avec son accord et son approbation, on va en faire peut-être la première île écologique dans la nature. Donc c'est une escalation d'idées. On commençait avec la montagne à Copenhague qui a muté et devenu les 7 sommets d'Azerbaïdjan. Azerbaïdjan montre d'autres développements qui ont eu lieu dans les ex-pays soviétiques. J'ai 3 exemples. D'abord, c'était un concours pour la mairie de Tallinn, la capitale de l'Estonie. Et Tallinn est listée par l'UNESCO. Et la tâche, c'était que, en fait, tous les départements de la mairie sont répartis sur 11 bâtiments différents. Donc, aller faire une mairie, un hôtel de ville qui allait faire un lien vers la Golfe de Finlande. Et on a commencé à étudier le programme et la mairie ne contient pas que tous les départements publics, mais les services publics, donc tout ce qui a à voir avec la sécurité sociale, les crèches, les logements pour les personnes âgées. Et bien là, vous allez à la mairie. Donc il n'y a pas une dichotomie entre l'espace public et le bâtiment public. Et bien, on s'est dit que le bâtiment pouvait être comme si ça flottait sur l'espace public en dessous. Le programme consistait en 11 départements différents. Voilà, oh là là. Merci Bill Gates. J'ai parié que je pouvais faire ma présentation en 1 heure 5 minutes, donc je vais m'y tenir. Il y a donc 11 départements et on s'est dit que plutôt que de faire un gros bâtiment, on pouvait faire une sorte de village de départements et avec une taille appropriée à leur importance et avec une diversité intégrée dans le bâtiment et avec la lumière du jour qui pourrait entrer dedans et dans des jardins également. Et on a appelé donc le village public. En suivant, on les a fait flotter pour libérer le terrain et on a fait des pentes sur les toitures pour être en phase avec le climat de l'Estonie. Et comme je l'ai dit, vous avez la lumière du jour et il y a des points de vue entre les gens et les servants publics. Et les gens peuvent aller sur les toits et regarder le panorama UNESCO de la ville qui les entoure. Il fallait qu'il y ait une tour selon le plan maître. Et en Europe, on ne peut pas imaginer un hôtel de ville sans tour. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la tour? Et peut-être le conseil. Donc, on s'est dit que le conseil municipal pourrait avoir cet espace avec une toiture faite en miroir. Et ça pourrait devenir une sorte de périscope pour que lorsqu'il faut prendre des décisions difficiles, il regarde en haut et il regarde vers la ville où ils interviennent. Mais lorsque les gens manifestent devant l'hôtel de ville, eh bien, ils peuvent voir à l'intérieur. Ils peuvent voir ce qui s'y passe. Ils peuvent voir si leurs représentants dorment. Donc, on appelait la tour le périscope public. Et c'était une très grande chance. Les conseillers municipaux ont aimé l'idée et on vient de signer le contrat. On a montré cette idée à un autre client qui est également un pays ex-soviétique. C'est le bureau du président à Kazakhstan. Et ils nous ont dit que si on l'avait suggéré à Astana, eh bien, on aurait perdu parce que le climat politique est très différent. Mais le Kazakhstan est un pays très intéressant parce que c'est connu pour Borat en ce moment, mais en fait, c'est le pays, le neuvième pays du monde en termes de taille. C'est vraiment très très grand. Et à la fin de l'ère soviétique, le Kazakhstan n'avait jamais été un pays, un État indépendant. Donc la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déménagé leur ville capitale vers le centre du pays et il n'y avait rien. Il fallait une bibliothèque nationale. Et on nous a invités à participer au concours. Et en fait, la plupart des bibliothèques sont des livres et beaucoup d'espaces où le public peut accéder à ces livres. Et les archives sont organisées selon le système Dewey qui va de 000 à 009. Et nous, on a proposé un cercle qui fait de la linéarité une infinité. Et il y a toutes les autres fonctions. Il y aurait les salles de lecture à l'extérieur avec la lumière du jour, des conférences à l'intérieur, des entrées en bas et des bureaux de recherche et d'administration tout à fait en haut. Et pour combiner les quatre diagrammes, on en a fait cela. C'est une sorte de boucle qui va de l'entrée à des salles de lecture, à l'espace conférence, et tout est branché sur l'archivage des livres. Donc on a combiné l'horizontal, le diagonal et le vertical. Donc là, vous voyez que c'est très pragmatique, encore une fois, avec les fonctions publiques aux alentours. Et enfin, le Kazakhstan, en fait, c'est la première fois qu'ils ont un État qui voulait en faire un musée qui allait raconter l'histoire des Kazakhs. Et on s'est dit qu'on pourrait mettre ce musée entre la façade qui va entourer le bâtiment. Et donc, ça ferait le tour de la bibliothèque. Et ça fait une sorte de... Une étape mobile, c'est une surface unique. Vous pouvez marcher de l'extérieur vers l'intérieur, vers l'extérieur, en un seul mouvement. Et on a donc mis la bibliothèque Mobus au milieu d'un parc et ça fait une grande arche pour l'entrée. Et selon le point de vue, ça change de silhouette et de personnalité. Lorsque vous faites une nouvelle ville capitale, eh bien, vous devez faire très attention à l'apparence. Et le président était très attentif à tout cela. Et cela ressemble beaucoup à la yourte, la tente traditionnelle des Kazakhs. De l'extérieur, vous avez le portail vers la cour, vous entrez dans la bibliothèque, vous avez ces sections très très différentes les unes des autres qui vont de l'octogonale à la diagonale et là vous avez une rotation d'espace à l'intérieur entre façade et bibliothèque. Et c'était donc un concours. On partie publique et en partie pour des invités, et on était contre donc Zaha Hadid et Norman Foster. Et on nous a dit que le président insistait que ce soit notre dessin. Et on était très surpris que le président du Kazakhstan aurait un goût tellement sophistiqué en architecture. Mais après toute une série de négociations sur le contrat très soviétique, on est allé à Kazakhstan pour signer le contrat et on est allé dans leur bureau et on nous a mis sur des canapés en cuir et on a vu cette sculpture et c'est une sorte de Mobi strip également, donc cette équation mathématique. Donc j'aime dire qu'on essaie d'utiliser des argumentations pour expliquer ce qu'on fait, mais des fois ça dépend de très peu de choses, ça dépend peut-être de l'œuvre d'art que le président connaît déjà. Et il a décidé donc de rapprocher la bibliothèque du palais du président. On s'est dit que ça devait être une bonne chose et ils nous ont demandé est-ce qu'on voulait voir le nouveau site, donc on y est allé pour voir. Et c'était 5 minutes après avoir signé le contrat, ils avaient déjà entouré le nouveau site et ils avaient déjà commencé à faire le trou en cercle. Donc maintenant, on essaie de faire les plans et de les faire arriver là-bas avant qu'ils commencent à construire. Le dernier projet que je vais vous montrer est un projet qui, de beaucoup de points de vue, fait face à ce problème du politiquement correct et après l'effondrement de la conférence sur les problèmes climatiques. Tout le monde doit avoir un point de vue par rapport à au développement durable, la durabilité, et surtout les architectes. Et on s'est posé la question, quel est le rôle des architectes dans notre tentative de faire un avenir durable? Et si vous pensez à Copenhague, nos projets à Copenhague, qu'est-ce que nous sommes prêts à consacrer à la durabilité? Quel pourcentage de notre qualité de vie? On s'est dit, ça, c'est pas une image très désirable de du développement durable. On a cette image qu'un développement durable est moins fun qu'un développement non durable. Et on avait un projet pour le pavillon danois. Tous les Chinois ont grandi avec la petite vendeuse d'allumettes et la petite sirène. C'est une partie de la culture danoise qui a été intégrée par la culture chinoise. Plus grand site touristique en Chine est la Grande Muraille. On dit qu'on peut le voir depuis l'espace. Et au Danemark, c'est la petite sirène qu'on voit à peine à 100 mètres. Donc, c'est une échelle complètement différente. Mais lorsque on étudie le développement urbain de Shanghai ces 30 dernières années, on voit qu'il y a eu un changement radical. Ils sont passés d'une culture basée sur le vélo à des bouchons interminables de voitures. Alors que c'est le contraire à Copenhague. Il y a un tiers des Danois qui vont au travail à vélo. Donc on va relancer le vélo, on va leur rappeler les Chinois, aux Chinois, quels sont les attraits du vélo. Et voici donc le pavillon. C'est une partie de la vie dans la rue en Chine où les gens peuvent faire du vélo. Ils peuvent essayer un vélo urbain danois et voir à quel point il est grisant de faire du vélo dans la ville plutôt que de faire le tour de la ville pour chercher une place pour se garer en voiture. comme je l'ai déjà dit, on est des ports. Les deux villes sont des ports. Mais à Copenhague, l'eau est devenue tellement propre qu'on peut s'y baigner. Et là, on a fait une piscine donc, dans le port de Copenhague. Et on s'est dit, plutôt que de parler des vélos, les gens devraient les essayer. Au lieu de parler de l'eau, pourquoi pas créer une piscine de port à l'intérieur du bâtiment où ils peuvent voir à quel point il est bien de pouvoir sauter dans l'eau et ressentir pour soi-même à quel point il est bien de sentir l'eau en plein milieu de la ville. Il ne voudrait peut-être pas avoir la température de l'eau à Copenhague, mais il voudrait peut-être avoir la propreté. Et on a proposé donc de mettre la petite sirène dans notre pavillon, pas une copie, la vraie petite sirène, la faire déplacer à Shanghai pour 6 mois pour que les Chinois qui ont grandi avec la petite sirène peuvent la rencontrer dans la vraie vie. Et à sa place, pour tous les touristes qui allaient venir voir la petite sirène, on a invité un artiste chinois, Ai Weiwei, de créer une explication. Et ce qu'il a proposé, c'était de mettre une caméra de sécurité. C'est la même caméra que la police chinoise a mis devant chez lui pour le surveiller. Mais on va transmettre dans l'image la petite sirène vers Copenhague à la place de la petite sirène. Et ce qui va se passer, c'est que cet endroit à Copenhague va devenir un lieu de débat, comme Speaker's Corner à Londres. Ça va, on va avoir des images qui vont venir depuis la Chine et on va voir des activistes chinois qui vont parler peut-être à la petite sirène de façon très agitée. Le pavillon lui-même est la représentation de comment une ville durable peut améliorer la qualité de la ville avec le vélo, les piscines, etc. Mais le bâtiment lui-même, on a également essayé de résoudre des problèmes, les défis. L'un des problèmes à Shanghai, c'est la climatisation. Il fallait que les gens puissent passer à vélo à l'intérieur, donc pas s'arrêter un portique à l'entrée. Et on s'est dit, pourquoi pas ventiler naturellement en éliminant les portes et la consommation de l'énergie. Et on a conçu le bâtiment comme une sorte de poutre en acier, sans colonne, comme un navire énorme. Donc, il soutient sa propre charge. Et à cause de cette forme en spirale, lorsque l'air chaud monte, ça va être canalisé dans le pavillon et propulsé vers l'extérieur par des perforations. Et ça va prendre de l'air frais depuis la piscine et créer une brise naturelle, presque comme ce qu'on avait fait à Taipei. Et ça, lorsque le cantilèvre rentre en action, il y a un effet qui fait qu'on ne peut pas faire de la perforation, donc les trous disparaissent. Donc de l'extérieur, l'architecture fait presque une radiographie de comment les gens bougent à l'intérieur du bâtiment. Et on a également découvert que les trous étaient parfaits pour ceux qui voulaient avoir une image de la petite sirène sans faire la queue. Et la nuit, vous avez un schéma très varié qui habite les façades du bâtiment. Et il y a quelques mois, il y a eu l'ouverture de Iron Man 2, donc le film. Et voici l'une des premières collages que nous avons effectuées du pavillon. Et voici l'exposition de Tony Stark pour la science folle. Et si vous comparez les deux images, voici Hollywood à gauche et Shanghai à droite, et vous avez vu que quelqu'un nous a volé notre bâtiment. Tout simplement, on s'est dit, c'est les États-Unis, le pays des avocats, il faudrait qu'on les traîne en justice et qu'on devienne très riche. Mais je crois que c'est Coco Chanel qui a dit que si on est copié, c'est un très grand compliment. Et on pourrait dire que l'une de nos ambitions avec le pavillon, c'était d'essayer de réinventer une façon plus positive de voir la durabilité. Et on s'est dit que lorsque Hollywood commence à piquer les idées de l'architecture durable, on pourrait dire que eh bien, le développement durable est peut-être plus fun que la vraie vie. Et pour vous donner un petit goût de ce que ce serait de se bouger à l'intérieur du pavillon à Shanghai, eh bien, c'est ouvert jusqu'à décembre. Je vais vous montrer un petit clip et vous allez pouvoir remarquer que le pavillon représente non pas seulement la vie durable, mais un musée parfait pour les gens impatients parce que vous pouvez faire le tour en moins de 2 minutes. Donc, je vais passer le micro au Black Eyed Peas. Donc, sur ces paroles, l'exposition est ouverte et j'ai remercié Arc en Rêve groupe déjà, mais je vais le refaire. Et je devrais également envoyer des pensées vers les gens de Big qui ont aidé à monter l'exposition. Je sais que nos maquettes sont un petit peu pourries maintenant et n'aiment pas beaucoup voyager. Donc merci à Gabi et Freddy d'avoir fait de leur mieux.
So I think we're still in time to.
Il y a peut-être, on a peut-être le temps pour aller voir le match France-Mexique dans 40 minutes.
Est-ce que vous voulez poser deux, trois questions?
Est-ce que vous voulez dire que l'architecture va gagner en qualité si les architectes prêtent plus d'attention, davantage d'attention à la partie triviale des projets et moins à, des, à la partie politique? Je pense que je vous ai passé mon micro, voilà. Eh bien, je pense en fait que la vie elle-même est déjà assez intéressante et l'accumulation des questions pragmatiques de la vie de tous les jours, comment payer sa facture de gaz, comment aller de son chez-soi à son travail, ce sont des défis qui doivent être gérés au même temps. Parce que dans la ville, c'est la coordination collective de toutes ces petites questions qui font que si on les met ensemble, ça fait un nœud très complexe. Et vous n'avez pas besoin d'astrologie, du mysticisme ou la philosophie française, mais c'est ce que je dis normalement, je ne le dirai pas dans ce contexte, pour rendre votre travail intéressant. Vous pouvez tout simplement observer les aspects de la vie de tous les jours et l'utiliser comme force motrice derrière votre travail. Et vous serez, vous n'allez pas rentrer dans le piège d'une idée préconçue qui rentre en conflit avec la réalité. Parce que les architectes se plaignent toujours des voisins, les clients qui ne veulent pas payer, ce qui dilue leur travail. Mais en fait, si vous prenez ces choses en compte dès le début de votre travail, ça devient, comme je l'ai dit, la force motrice. C'est l'idée en Aikido, c'est la force de votre ennemi qui devient votre force. Nous aussi, bien sûr, on se plaigne de nos clients et des voisins et des pouvoirs publics également, mais ce serait très enfantin que de se laisser envahir par ces questions-là.
Stay out of trouble.
Mon conseil, ce serait de s'éloigner des problèmes.
Almost like make a snapshot of society that you can say that.
Je pense, encore une fois, que l'architecture, c'est une forme d'art. C'est une occasion où on peut
de prendre
une photo de la société où on peut dire, dans le monde, il y a
ces structures
matérielles, invisibles. et toutes ces structures qui traversent la société, que ce soit culturel, ethnique, politique, économique, et c'est invisible à l'œil nu. Mais lorsque vous avez construit quelque chose, vous restez alerte au lieu de faire un blocage à ces forces. Vous pouvez les entourer, les encadrer, et votre travail devient pas tellement l'acte de pousser quelque chose vers dans la vie, mais découvrir des aspects de la vie qui existent déjà, mais qui sont invisibles. Et il peut être très difficile de mener à bien un projet si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, si vous ne savez pas quelle est votre mission. Mais lorsque vous savez quelle est la barrière que vous allez éliminer, quelles sont les possibilités que vous allez ouvrir, vous avez beaucoup plus de pouvoir et de puissance, et vous allez pouvoir prendre beaucoup plus de plaisir en dessinant un bâtiment plutôt que de le faire exister ex nihilo. Il faut prendre en considération les forces de la société, mais il faut les aider, les soutenir et faire en sorte que votre bâtiment les accompagne. Donc il faut passer du temps à comprendre et savoir pourquoi vous voulez le faire. Et une fois que vous le saurez, vous allez beaucoup plus vous amuser à le faire.
Ça sonne. alors, je voudrais vous dire... Ah, attendez deux secondes. Juste, je voulais apporter une précision, s'il en était besoin, que le parti pris de la BD... des images de synthèse qui sont utilisées évidemment pour exprimer le concept, le processus d'élaboration et d'évolution de l'idée, peut laisser dans l'ombre la qualité de réalisation et de construction. Et il ne vous a pas échappé sans doute, notamment dans le dernier projet, la difficulté de faire la différence entre l'image du projet, donc à l'état de projet, et la réalisation vraiment réelle qui après a été vue dans le film d'animation, et il en est de même pour les autres réalisations. Donc une qualité de construction totalement étonnante, et je pense que c'est important de le préciser, de le dire lorsqu'on voit des projets de cette facture-là. Voilà, alors et cette transition me permet aussi de rappeler, donc, avant de vous inviter donc, à aller visiter l'exposition, et je vous rappelle que vous pouvez acheter le livre qui va être dédicacé par Biard pendant 20 minutes à peu près, d'inviter, pour ceux qui ne l'ont pas encore visité, à voir, après avoir visité l'Expo PIG, l'exposition Construction de Dominique Lyon. Voilà, et je trouve que ces deux expositions installent un dialogue très intéressant. Il y a également un livre, Construction de Dominique Lyon. Dominique Lyon est également là ce soir. Voilà.